Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Coupure intempestive et délestage du courant électrique dans les zones urbaines de la RDC. Quelles sont les causes et les solutions? Nous en parlons avec M. Emmanuel Moussouyou. Il est coordonnateur de la coalition d'organisation de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, Corap en sigle. Il est en ligne depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Emmanuel Moussouyou, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, merci
beaucoup. Si vous êtes intéressé par ces sujets, oui, merci beaucoup. Restez en ligne. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099 706 9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, témoignages et suggestions au numéro 099 706 9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service dans les courriels dénommés service @radiokapi.net. Tati Mafoukou vous présente et coordonne ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à un réseau à la réalisation et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Coupure intempestive et délestage du courant électrique dans les zones urbaines de la RDC, quelles en sont les causes et les pistes des solutions? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Monsieur Emmanuel Moussouyou. Il est coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes de l'action publique, Corap en sigle, qui a publié les résultats d'une enquête menée dans quelques villes de la RDC concernant l'accès à l'énergie électrique. Il est en ligne. Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît, si vous êtes dans un local, veuillez vous déplacer un tout petit peu parce que la liaison n'est pas bonne avec les retours n'est pas excellent, donc penchez-vous du côté de la fenêtre hein, pour améliorer la qualité de l'écoute. Et si la radio est en train de résonner à vos côtés, veuillez éteindre les transistors qui est en train de résonner à vos côtés. Écoutez-nous au téléphone. Est-ce que c'est fait?
C'est fait. Je pense que c'est...
Oui, à ce niveau-là...
Bon de votre côté, j'espère.
Exactement, la liaison est bonne. Et dites-nous, quel état des lieux, Monsieur Emmanuel, faites-vous hein, concernant l'accès à l'énergie électrique dans les zones urbaines de la RDC?
Alors, merci beaucoup, Monsieur Tati, pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, nous sommes de la CORAP. La CORAP, c'est une coalition qui regroupe plusieurs organisations à travers le pays. Qui s'en charge, au fait, ou qui s'est charge du monitoring des réformes et des actions publiques. Et ici, pour le cas de la SNEL, déjà la grande question que vous posez, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Carrément sur la question de l'électricité, quel est l'état des lieux aujourd'hui? C'est que de plus en plus, comme nous l'avons dit dans notre document, les espoirs s'envolent, au fait. Les espoirs des populations pour l'accès à l'électricité s'envolent de plus en plus parce que déjà pour les milieux périurbains et ruraux, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, mais jusque-là, il n'y a pas encore des résultats probants. Donc, on est toujours autour à moins d'1% d'accès à l'électricité. Mmh. En milieu urbain également, c'est vrai qu'on peut citer quelques centrales comme Zongo 2, on peut citer des centrales comme Busanga, mais on doit avouer ici que cela n'a pas forcément contribuer de façon efficace jusque-là à l'amélioration de la desserte. Et s'il faut revenir de façon spécifique pour la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, il y a une ou deux années passées, nous avons démontré que plus ou moins 56% des populations kinoises avaient accès à l'électricité. Mais je dois avouer que aujourd'hui, les gens peuvent avoir accès 56% ou légèrement un peu plus. Mmh. Les personnes peuvent avoir accès, mais la qualité de la desserte, elle est trop faible. La qualité, elle est vraiment inquiétante. Cela se justifie par le fait que vous l'avez dit dans votre introduction, les délestages s'intensifient, n'est-ce pas, des coupures intempestives, et les conséquences sont légion. Nous pouvons citer ici, n'est-ce pas, la perte des des provisions dans les maisons, la perte des appareils électroménagers, parce que au fait il y a l'intensité de l'électricité n'est peut-être pas de bonne qualité et cela impacte sérieusement sur la qualité de tout ça. Donc la conclusion aujourd'hui sur l'état des lieux de l'accès à l'électricité à Kinshasa, il faut qu'on note que cela est très inquiétant parce que la population ne bénéficie pas de cet accès. Et dans l'entretemps, on doit noter que on n'a pas d'électricité mais on doit payer des factures. On n'a pas d'électricité mais on doit payer l'éclairage public. On n'a pas, n'est-ce pas, cet éclairage public, mais justement, on doit payer. Et du coup, cela se pose comme un problème. Peut-être que je vais chuter en cette introduction en disant que, au fait, tout ce qu'on est en train de constater aujourd'hui comme problème est résumé, en trois problèmes majeurs. Ou en trois, justement, problèmes majeurs. Premièrement, c'est que le gouvernement, depuis 2014, a libéralisé le secteur de l'électricité. C'était une façon de dire qu'elle s'est désengagée du secteur. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement depuis jusqu'à aujourd'hui dans la production d'électricité de la part de l'État congolais. L'année passée, peut-être avec 145 territoires, on pouvait s'imaginer que voilà, quelques fonds devaient aller dans ce sens-là, mais dans les 145 territoires, aucun territoire n'a bénéficié d'un fonds pour le volet électricité jusque-là. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a ce problème-là de production d'électricité, d'une part du gouvernement justement central et des provinces et au niveau décentralisé. On n'a pas investi. Et quand on n'a pas investi dans la production d'électricité, il faut qu'on se rende compte que la conséquence directe est la démographie. La démographie, les populations croissent tous les jours, alors que c'est la même quantité qu'on avait depuis des années qui doit être départagée par plusieurs ménages cette fois-là. Et donc, la qualité, elle doit être impactée. Il sera question de délester certains pour donner à d'autres. Il y a des raccordements frauduleux qui s'intensifient et donc cela crée des sérieux problèmes. Ça, c'est de un. De deux, toujours dans ce premier grand ensemble d'investissements, c'est que la libéralisation, en réalité, devait favoriser plusieurs investissements des privés. Mais qu'est-ce qu'on constate? L'année passée, on a publié un rapport sur la fiscalité qui démontre que une entreprise dans le secteur de l'électricité, l'année en 2022-2023, était appelée à payer plus de 80 taxes, impôts et redevances. Alors, c'est un nouveau secteur. On veut plus d'investissement, on veut plus de production d'électricité, mais on asphyxie les opérateurs qui sont censés justement travailler dans ce secteur et résoudre le problème. Donc, il n'y a pas de cohérence. On note que il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de politique d'incitation pour favoriser l'émergence d'investissements dans le secteur pour la production d'électricité. Parce que quand il n'y a pas de production d'électricité, je l'ai dit, je l'ai démontré tout à l'heure, que la conséquence directe est le fait que la qualité va décroître et il y aura de plus en plus de problèmes. Le deuxième problème dans ces grands ensembles, j'avais parlé de trois, le deuxième c'est que il y a toujours cette pression politique auprès des animateurs des institutions publiques ou des grandes institutions comme la SNEL, la Régie des Eaux. Hier, on a suivi, n'est-ce pas, le compte-rendu du dernier Conseil des ministres où le chef de l'État a parlé des entreprises publiques, entre autres la SNEL et la Régie des Eaux, où il a signifié le fait qu'il faut recruter effectivement des gens compétents qui passent par un processus de recrutement bien élaboré par n'est-ce pas, toutes les institutions en charge. On est d'accord et on encourage cette politique, mais ici, il faut qu'on note aujourd'hui que les politiques qu'on envoie dans les conseils d'administration, les politiques qui sont des ministres et qui sont des conseillers, ils traumatisent les entreprises publiques. Ça veut dire, par moment, ils considèrent ces entreprises-là comme des vaches à lait, parce que s'il y a des besoins qui ne sont malheureusement pas planifiés dans les programmes de ces entreprises, on les impose à payer, à sortir des fonds, alors que ces fonds pouvaient aider, par exemple, à la maintenance ou au fait de trouver d'autres solutions probables, n'est-ce pas, pour améliorer les choses. Ça fait partie des problèmes qui asphyxient le secteur et qui impactent sur l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, la SNEL, qui est l'entreprise commerciale, certes, mais avec l'État congolais comme actionnaire majoritaire, subit ces pressions. Et cela impacte sur la qualité du service qu'ils doivent rendre. Et troisièmement, c'est de façon globale la question de la gouvernance. La gouvernance, elle est importante et cette gouvernance part de toutes les institutions, qu'il soit le ministère des ressources hydrauliques et électricité, qu'il soit, n'est-ce pas, au niveau des des institutions comme l'autorité de régulation, l'ANSER, etc., et la SNEL. Donc, la problématique de la bonne gouvernance demeure ici comme, n'est-ce pas, un grand défi qu'il faut renforcer. Et donc, ces trois problèmes, s'ils ne sont pas réglés, rassurez-vous que la situation de l'électricité ne pourra pas s'améliorer. Et c'est là que nous interpellons les autorités qui nous gouvernent dans ce secteur.
Monsieur Badjane Moussouyou, nous rappelons que vous êtes coordonnateur de CORAP, qui est l'organisation de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Avec vous, nous sommes en train de parler des coupures intempestives et délestages du courant électrique dans les zones urbaines de la RDC. Quelles en sont les causes et les solutions? Dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Nous allons partir au standard. Quant à vous, gardez l'écoute. On donne la parole à la population et puis nous allons revenir au studio pour continuer ces sujets. Le premier auditeur, il intervient depuis la ville de Kisangani. Il s'appelle Bofenga Jack. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité qui est au studio.
Bienvenue dans Okapi Service. Qu'est-ce que vous avez à nous témoigner concernant les délestages et les coupures intempestives du courant au niveau de la ville de Kisangani?
Vraiment, merci beaucoup pour nous avoir associés une fois de plus à ce débat. Et j'aimerais d'abord dire que le courant est parmi les besoins prioritaires dans le milieu urbain. La ville dépend en grande partie de l'électricité, vu ses multiples usages. Le courant est la source de transformation des industries, parce qu'en ville, il y a beaucoup plus d'industries. On a besoin d'électricité. Et vous pouvez comprendre que sans courant, sans électricité, et la ville sera en difficulté de fonctionner. Et par rapport aussi à son usage domestique, il y a un énorme besoin de l'électricité dans les maisons. Le fait qu'on peut utiliser ça avec le courant, on peut utiliser ça avec les travaux domestiques, les repassages et ainsi de suite, les congélateurs. Vous voyez que les multiples usages des courants en milieu urbain fait en sorte que son importance soit remarquable. Même si on fait un état des lieux, ici, je parle premièrement ici à Kisangani, il n'y a même pas moyen de parler de courant parce qu'on ne le voit même plus. Et c'est peut-être ces deux derniers jours ici qu'on commence à avoir le courant durant peut-être un siècle passé. C'est un problème sérieux et l'état des lieux est vraiment sombre, si on peut le dire. Et la SNEL ne fonctionne pas normalement ici à Kisangani. Et le grand problème, c'est quoi? D'abord, il y a le problème, comme l'intervenant parlait là, de gouvernance. C'est un sérieux problème de gouvernance de cette entreprise-là, de façon qu'elle ne fait pas distribuer ou gérer l'électricité de manière rationnelle. Vous voyez qu'il est en train de le faire avec le...
Gardez l'écoute, votre correspondant.
Malheureusement, la liaison s'est interrompue avec l'auditeur Jack, mais on a déjà saisi les fonds de sa pensée. L'invité aura le temps de répondre parce qu'il a dit que c'est vraiment un problème au niveau de la ville de Kisangani, l'accès à l'énergie électrique. Nous allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à Maître Patrick Odia, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Tati Mapoukou et bonjour à monsieur l'invité du jour et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous donne la parole.
Merci de m'avoir associé à ce niveau du débat. Cette question ou ce sujet semble être relancé ou semble être complexe parce que cette question relance les débats sur la notion de la démission d'État dont nous avons longuement parlé il y a dans d'autres émissions également avec vous, avec d'autres également journalistes également. Est-ce que l'État a-t-il démissionné de ses fonctions régaliennes? Peut-être c'est la question autour de laquelle que nous pouvons essayer également de tenter de répondre également et d'apporter. Parce que, rappelez-vous, dans les missions régaliennes de l'État, je parle de l'État au sens propre, au sens strict, donc il y a non seulement fournir le besoin fondamental de la population ou du peuple congolais, mais aussi d'autre part garantir la stabilité économique et financière de tout un chacun de nous collectivement ou individuellement également. Dès lors que les premiers besoins fondamentaux ne sont autres qu'à manger, l'électricité, mais aussi également l'eau potable, qui sont même des droits fondamentaux garantis universellement par les Nations Unies et ou les structures des Nations Unies. Mais nous constatons en RDC, et plus particulièrement ici au Haut-Katanga également, qu'il y a la défaillance ou la démission de l'État. mais cela n'exclut pas qu'on puisse établir le régime de responsabilité, notamment dans cette question de la faillite de l'eau, également de la démission de l'État, mais aussi l'eau et l'électricité, auxquelles qui nous considérons également comme étant une matière rare. Je reconnais ici la responsabilité du peuple congolais. Mmh. Qui au jour d'aujourd'hui, Tati Mapoukou, qui, moi, Maître Patrick, lorsque j'ai des factures à payer à la maison, lorsque j'ai des factures à payer pour l'eau au robinet et tout à la régie des eaux, nous ne payons pas. Et ça, c'est la majorité, le manque de culture, presque populaire en RDC. Nous ne sommes pas à mesure de nous acquitter de nos factures mensuelles, qu'ils soient pour l'eau, qu'ils soient également pour l'électricité. Beaucoup de Congolais, je pense, 78% sous les titres de la Banque mondiale également, nous n'arrivons pas à respecter. Alors, comment voudrions-nous, d'une part, que nous ayons l'électricité, que nous ayons une eau potable, même si au départ ce sont des droits fondamentaux, mais si nous, à mesure, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous acquitter de nos devoirs, des devoirs qui sont les nôtres, ou des obligations qui sont les nôtres pour être précis. Voyez-vous que cette question relance non seulement les débats sur les régimes de responsabilité de l'État et de la démission de l'État, mais aussi du régime de la responsabilité de la population que nous sommes également. Mais dans la grande partie, parce que je parlais de la population, nous pensons que l'État a failli à sa mission. Non seulement qu'il y a un problème de gouvernance, on prend un monsieur politique qui n'a rien à faire avec l'électricité, ni l'eau également, aucune expertise en la matière, mais parce qu'il est du parti présidentiel, parce qu'il est de l'Union sacrée, parce qu'il a des incohérences familiales avec le président ou le régime en place, on les nomme comme PCA, on les nomme comme DCA, mais il n'y a aucune expérience. Et voyez-vous, nous allons attendre à quel résultat. Je pense que le chef de l'État, s'il nous écoute, si vraiment il nous écoute, je voudrais, Monsieur le Président, Excellence Président de la République, Madame la Première Ministre, que cette fois-ci, vous puissiez prendre les responsabilités qui sont les vôtres. En nommant des hommes compétents qu'il faut, ayant une expertise, ayant une expérience également en la matière. Évitez toute pression politique. Je sais ce que je fais. Il y a un député qui a eu à dénoncer, qui est d'ailleurs un administrateur de cette société également. Vous avez des pressions de part et d'autre parce que des motions que nous appelons des motions économiques ou financières également, parce que tu es DG et on voudrait peut-être créer une motion. Je pense que le chef de l'État, s'il nous écoute réellement, je vous parle à cœur ouvert, que vous puissiez prendre les responsabilités qui sont les vôtres. Si la SNEL n'a pas fonctionné durant Mobutu ou durant Kabila ou durant, mais vous êtes engagé de pouvoir changer les vêtements quotidiens du peuple. Mais jusqu'à preuve du contraire, la chanson reste la même. J'étais à l'école primaire, la chanson, j'étais à l'université et que soit aujourd'hui je suis ce que je suis, mais la chanson continue d'être toujours l'eau et l'électricité. Chef de l'État, vous pouvez prendre vos responsabilités en nommant des gens qu'il faut à la tête de la SNEL et de la régie des eaux.
Maître Patrick, vous à Lubumbashi, vous avez l'énergie électrique en permanence ou pas?
Nous n'avons pas. Au moment où je vous parle, je suis dans ma maison, nous n'avons pas l'électricité. Je suis là dans ma maison, nous n'avons pas l'électricité. Mais je suis en plein centre-ville de Lubumbashi, à quelques mètres du gouvernorat des provinces. Comment vous trouvez ça l'essentiel? Je suis là à la maison, je n'ai pas les courants, l'électricité. J'ai des habits à repasser, j'ai des choses à préparer, mais il n'y en a pas les courants, il n'y a pas les courants. Que voulez-vous? Même là, dans les quartiers, il n'y en a pas. Alors qu'il fait tellement chaud, nous n'avons pas l'eau. Ça, c'est un fait. Dédé et Calma, je pense qu'il y a des factures. L'État doit investir. Nous ne voudrions pas exercer une pression aussi sur les dirigeants de la SNL, que nous pouvons préalablement exiger qu'ils soient compétents. Oui, mais d'autre part, il faut donner les moyens adéquats pouvant leur permettre de pouvoir exercer et atteindre l'objectif dont ils se sont assignés, dont ils vont poursuivre également pour atteindre. Mais d'une part, vous pouvez même nommer Jésus le Père, Jésus le Fils, le Sauveur Jésus-Christ lui-même à la tête de la SNL et de la Régie des Eaux. Mmh. Mais dès lors que vous n'êtes pas à mesure de lui fournir le fisc et l'investissement nécessaire en termes de moyens financiers, nous n'allons, même si c'est le Fils de Dieu, je prends ma main à couper,
il n'aura rien à faire
dans ce pays d'or.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Oui, nous voudrons dire, les chefs de l'État, la chef du gouvernement actuel, doivent revoir les animateurs des institutions et cesser toute politique et toute ingérence dans les entreprises publiques et donner les moyens adéquats. Nous, à Lubumbashi, nous n'avons pas les courants. Moins encore au Kasaï Oriental, moins encore au Sud-Kivu, moins encore à Kinshasa, n'en parlons même pas. Je pense que les efforts sont fournis, mais les efforts ne sont pas transparents et ne sont pas proportionné au terme des besoins que nous avons.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Hein. Patrick Odia, nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, retournons à Kinshasa pour donner la parole à M. Peter. Peter Maboudi, bonjour.
Merci à notre invité.
On vous donne la parole. Nous parlons des coupures intempestives et délestages dans les zones du courant électrique dans les zones urbaines de la RDC.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir associé à cet échange, M. Guy. Tati, la question de coupures intempestives du courant électrique à travers le pays, je crois que c'est une question épineuse. Non seulement le courant électrique, comme mon prédécesseur venait de l'énumérer, même au niveau de la régie des eaux, c'est presque la même situation. Donc, avec un constat que nous avons toujours fait, toutes les entreprises de l'État sont devenues des canards boiteux. D'une part, de la politique managériale de l'État, qui est responsable de ces entreprises, d'une part, et également aussi de la politique managériale ou gouvernementale de ceux qui sont à la tête de ces entreprises publiques de l'État. Et ici, d'abord, de rappeler que toutes ces entreprises publiques de l'État ont été transformées en sociétés commerciales. Mmh. Qui dit société commerciale, c'est une société qui doit rendre service sur base d'un produit quelconque. Et les résultats ici de ces produits doivent couvrir d'une part les charges d'exploitation au sein de l'entreprise qui sont variables ou fixes, et également aussi d'autres charges inhérentes à la vie de la société. Donc, la question de l'électricité, couper l'électricité à travers le pays, je crois qu'il est question d'une part du gouvernement, comme je disais, qui est l'acteur, donc actionnaire principal de ces entreprises, et également aussi de ceux qui gèrent. Ceux qui gèrent maintenant, c'est à quel niveau? C'est au niveau des suivis de leurs produits sur terrain. Je suis ici à Kinshasa. J'ai suivi dans d'autres missions, surtout sur vos antennes, où un invité dit, juste quand il y a coupure d'électricité, nous constatons dans nos quartiers ici, comme nous vivons là, vous appelez un jeune de quartier et c'est fini, c'est lui qui doit vous raccorder tout ça et puis avec toutes conséquences qu'on subit. Et il y a aussi une culture de non-paiement des factures, comme mon professeur l'a dit.
Comme l'a révélé l'auditeur de Lubumbashi, la culture de payer le courant
ici en RDC. C'est plus ici à Kinshasa où il y a des raccordements fraudulés et on ne sait plus honorer aux factures de la SNEL. Et cela ne relève non seulement pas de la culture des clients, également aussi de la SNEL qui ne fait pas de suivi auprès de ses clients qui devraient honorer leur facture. Et lorsqu'on n'honore pas une facture, quelle est la responsabilité, quelle est la mesure qui doit être prise par une entreprise par rapport à un client douté ou qui ne paye pas la facture? Donc, c'est ça aussi un problème. Et également aussi, la rémunération du personnel au sein de la SNEL. Donc, il y a un problème de paiement des personnels qui sont au niveau de la SNEL, tenant compte de leurs compétences, de leur expérience, on les engage parce qu'ils sont membres de partis politiques, comme mon professeur venait de l'énumérer. J'ai une petite expérience que j'ai vécue dans la province du Kassai, précisément à Tshikapa. Là, il y a une société privée, EDC, avec les courants de compteurs. Donc là, il n'y a pas problème de coupure d'électricité. Vous n'avez pas d'électricité, c'est-à-dire vous n'avez pas payé votre abonnement avec votre compteur. Et les gens ont la culture, ils ne peuvent pas manquer du courant. Et d'office, ils partent s'abonner. Donc, maintenant, ici, à Kinshasa, à travers le pays, si on a un système de compteurs, je crois que les clients qui ne sont pas redevables vis-à-vis des sociétés doivent d'office honorer à leurs engagements parce qu'ils auront besoin du courant.
Oui, mais Monsieur Peter, s'il vous plaît, ici, à Kinshasa, il y a des quartiers aussi où on a mis des compteurs à prépaiement. Ça existe, ça existe dans le parti ouest de la ville, ça existe dans certains quartiers de l'est de la ville de Kinshasa.
Oui, à Kinshasa, il y a certains quartiers. D'ailleurs, ici, en Galima, nous voyons qu'on est en train d'installer même le compteur. C'est une très bonne initiative, parce que cela ne doit pas faire manquer à la société ce qui lui est dit. C'est vraiment un aspect très capital. Et autre chose, ce que je voudrais soulever par rapport aux coupures intempestives du courant, c'est aussi la politisation des animateurs. Et toutes les recettes qui entrent au sein des entreprises publiques de l'État vont où? Nous avons une petite expérience encore avec Transco, qui a une dette de 10 millions par manque de non-paiement des carburants. Toutes les recettes que Transco reçoit auprès des clients, des transporteurs, des passagers, où vont tout cet argent? Donc c'est également aussi là où nous parlons qu'il y a une politisation des entreprises et aussi l'ingérence même de l'État, la défaillance du pouvoir public. Avec les recherches que nous avons toujours menées, toutes les entreprises, les recettes qui entrent, c'est souvent les politiciens qui se partagent On ne sait plus payer les personnels qui sont là-bas.
Monsieur
on ne sait plus
tenir compte
de la maintenance des matières, des matériels des entreprises. On ne sait plus s'approvisionner
Monsieur
aux
Peter,
intrants.
S'il vous plaît, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Donc, merci d'avoir été avec nous. Hein. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Cette fois-ci, nous partons à Bounia pour donner la parole à Justin. Bonjour. Monsieur Kalabia, malheureusement, il n'est pas là. Nous partons à Lubumbashi. Cette fois-ci, pour donner la parole à Achille. Achille, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, Tati. Bonjour à tout le monde.
On vous donne la parole. Nous parlons des coupures intempestives et des lestages dans les zones urbaines de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Bon, Tati, vous savez, dans ces pays, on a tout dénoncé. Bon, c'est que ça, ça sur vos ondes, sur les réseaux sociaux. Bon, mais les constats restent toujours à mort. Hormis le problème de l'électricité. Essayez de faire un micro-baladaire et demander à la population quel secteur au Congo qui marche très bien. Je pense que la réponse sera négative. Donc, je voudrais d'abord réagir par rapport aux auditeurs qui disent que non, la population ne paye pas les non-paiements des factures. Vous pensez que si même la population se mettait à payer les factures normalement dans ces pays, tout sera, on aura les courants? Je pense que le problème, c'est pas celui-là. Parce que moi, chez moi, à la maison, par exemple, j'ai les nouveaux systèmes ici de prépayer. Mmh. Quand je vais payer, quand je vais recharger, vous trouvez toute une file d'attente là qui paye. Mais quand vous arrivez, vous rentrez à la maison, il n'y a pas du courant. Donc, c'est pas dire que non, la population ne paye pas les facteurs. Même si on payait, même si on parvenait à financer la SNL, ça va servir à des individus. Ça va jamais changer. Et quand on dit il faut donner, Maître Patrick a dit il faut donner des moyens à cette société. Quand on donne des moyens, ça va profiter à des DG, à des dirigeants et ils vont se remplir, ils vont se payer des voitures et se marier. Donc les problèmes ne se situent pas à ce niveau-là. Les problèmes, je pense que c'est avoir des dirigeants intègres qui travaillent, qui pensent à la population et avoir des bons leaders comme des Musée, comme des Lumumba qui ont l'amour du pays. Parce que c'est pas l'argent qui manque dans ces pays pour donner de quoi du bon courage à la population. Et c'est pourquoi je suggère que c'est l'invité je voudrais que l'invité propose au gouvernement, à l'État congolais de privatiser de quoi la SNL et la régie des eaux.
Ben, donc moi je pense que le secteur est déjà libéralisé, maître.
Je voudrais aussi poser la question, je sais pas, parce qu'un jour j'étais à Goma dans le Nord Kivu, je vis le travail qui Viron Énergie est en train de faire. C'est quand même un travail à quand même à saluer par rapport à ma ville. Oui, par rapport à ma ville, Lubumbashi, et quand j'ai essayé de comparer à Goma, je pense qu'il y a vraiment une différence. Je pense que les auditeurs de Goma ne diront pas vraiment le contraire, bien qu'ils ne sont pas ici. Je voudrais savoir s'il y a vraiment une collaboration entre la SNL et Virunga Énergie.
Merci beaucoup, Monsieur Achille. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Monsieur Manuel Moussouyou, comment répondez-vous à nos auditeurs? Commençons par les tout premiers, M. Jack, à partir de Kisangani.
Merci beaucoup pour la parole et surtout merci beaucoup pour les auditeurs et tout l'intérêt sur le sujet. Effectivement, on va se rendre compte que le secteur de l'électricité est la base, n'est-ce pas? C'est un secteur qui est au centre de tous les autres secteurs. Je pense que le premier intervenant arrivait à démontrer comment est-ce que voilà, l'électricité, avoir l'électricité, ça nous permet à vaquer à presque toutes les voilà tous les secteurs ou tous les domaines. Il a parlé du multiple usage de l'électricité, ce qui est vrai. Maintenant, je voudrais juste signifier que voilà, par rapport à au premier intervenant, le problème n'est pas seulement qu'en milieu urbain, bien que je suis d'accord avec lui qu'en milieu urbain c'est compliqué, mais on doit aussi se préoccuper du milieu rural et périurbain où voilà moins d'1% n'a pas accès à l'électricité. Ils n'ont même pas accès à la lumière. Il y a beaucoup de coins en RDC où les gens n'ont jamais vu d'électricité. Même ici à Kinshasa, on a vu ça. Et donc je suis d'accord avec lui que il faut que le secteur soit, il faut qu'on améliore en fait les services pour que la vie dans son ensemble puisse être facilitée. Alors, il y a Maître Patrick de Lubumbashi qui parlait de la démission de l'État. On est très d'accord avec lui. Aujourd'hui, c'est même là le plus grand problème. On est en train de condamner la SNEL. On va continuer à condamner la SNEL parce que, justement, c'est la plus grande entreprise. Mais comme quelqu'un le disait, Il faut qu'on se souvienne que la SNEL est une entreprise commerciale dorénavant. Bien que c'est l'État qui est
l'actionnaire principal,
la SNEL est appelée justement parce qu'elle a été bien évidemment privatisée depuis quelques années. Et donc elle est appelée justement à répondre dans la compétition aux besoins de ses clients. C'est, ils doivent faire la même chose que ce que les opérateurs dans le Nord qui vous sont en train de faire, Virunga, on l'a cité, et autres. Donc effectivement, mais c'est là que je disais, le rôle de l'État dans tout ça, c'est lequel? Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie doit être capable de nous présenter son bilan en tant que ministre de l'Énergie. Qu'est-ce qu'il a fait pour le secteur de l'électricité? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Il a trouvé que le secteur était libéralisé, il a trouvé que des acteurs étaient mis en place, des institutions étaient mises en place, à et en serre. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Où est la politique nationale de l'énergie? Où est la planification énergétique? Vous voyez, ce sont des instruments très importants qui peuvent orienter les investissements dans le secteur de l'électricité. Ça peut orienter, n'est-ce pas, le développement du secteur de l'électricité, parce qu'on peut se projeter. Aujourd'hui, je disais ici qu'on peut condamner la SNEL comme on veut, mais si la SNEL n'a pas le moyen, si la SNEL n'a pas investi dans la production d'électricité, si la SNEL n'a pas investi dans les énergies renouvelables, le solaire par exemple dans certains coins, le problème de la SNEL va demeurer. On peut changer tout le monde qu'on veut, quelqu'un parlait même de Jésus, on peut le mettre là-bas, aussi longtemps qu'il n'y a pas de moyen pour, n'est-ce pas, viabiliser le réseau, pour, n'est-ce pas, renforcer la quantité de l'énergie dans le réseau, il n'y a aucune solution qui peut venir. Donc c'est là que je suis d'accord avec le rôle que l'État doit jouer, le ministère de l'Énergie doit jouer, parce qu'en réalité, c'est l'État congolais qui doit répondre. Pourquoi plus de 90% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité? Pourquoi ceux qui ont accès à l'électricité ont une qualité très mauvaise, n'est-ce pas, de cet accès? Donc voilà un peu ce que je peux dire à Patrick. Et je suis d'accord avec lui. Pour revenir à la question de la facturation, effectivement, la population ne paye pas dans certains coins d'électricité, dans d'autres, voilà, ils sont obligés de payer. On a cité des grandes villes ici à Lubumbashi, on peut parler de Kinshasa, Lubumbashi et d'autres grandes villes. D'ailleurs, avec le système forfaitaire, les gens payent de l'électricité qu'ils ne consomment pas. Vous voyez, bien qu'il y a une catégorie de ceux qui n'ont pas de moyens, effectivement, de payer de l'électricité, mais il y a de ceux-là qui payent tout le mois sans qu'ils ne consomment cette électricité. Donc, il y a un dilemme par rapport à cela. Je ne dirais pas qu'il a totalement tort de dire que les populations ne payent pas, mais il y a de ceux-là qui doivent payer, et comme aussi il y a de ceux qui payent, ils n'ont pas le service. C'est comme ça que nous disons ceci. L'accès à l'électricité n'est pas seulement accéder à la lumière, ou justement à avoir la possibilité de faire fonctionner son réchaud, c'est pas faire électrique ou sa télévision, mais l'accès à l'électricité signifie aussi l'amélioration des conditions économiques des communautés locales. Et le cas de Virunga l'a toujours démontré, je suis toujours revenu dans ça. C'est-à-dire, il faut donner de l'électricité aux communautés, aux populations, et leur permettre de développer des activités économiques. Ce sont ces activités économiques qui vont améliorer leur capacité à payer l'électricité. Ouais, mais dans plusieurs coins, on peut voir que voilà, les gens, il y a pas d'activité, les gens ne produisent pas. Et quand on ne produit pas, notre moyen de à payer l'électricité devient de plus en plus faible. Et donc ici, je dirais qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que effectivement, dans certains coins, les gens n'ont pas accès, n'ont pas une électricité qui peut leur permettre de développer des activités pour être capables de payer cette électricité. Mais il y a de ce coin où les gens payent de l'électricité, mais sans qu'ils n'aient accès. Mais comme je le disais encore une fois de plus, la quantité de l'énergie produite actuellement est trop faible. La SNEL te dira qu'elle produit plus ou moins 15 millions de mégawattheures l'an. Vous voyez, mais dans ces 15 millions de mégawattheures là, elle doit servir aux entreprises minières plus ou moins 8 millions de mégawattheures là. Et sur je voulais parler de 13 millions bien évidemment. Et sur le 13 millions, si on enlève 8 millions, vous allez vous rendre compte qu'il reste peut-être 5 millions et c'est ces 5 millions qu'il va desservir à la population congolaise. C'est impossible. Donc la quantité est insuffisante et l'État congolais doit s'activer pour arriver à répondre à ce problème-là de l'électricité.
Alors, oui, mais, il y a le problème des compteurs, s'il vous plaît, bien évidemment. Pourquoi cette répartition... Excusez-moi, M. Emmanuel, je voulais savoir, au fait, cette répartition inéquitable des mégawatts chez les entreprises minières et puis du côté des abonnés de la SNEL. Parce que tous, ils sont
clients. C'est même ça l'essence de notre combat. Il est vrai que les entreprises minières sont considérées comme étant des clients solvables. C'est ça le terme qu'on exploite. Ils sont des clients solvables parce qu'ils payent l'électricité, ils ont tout le moyen. Mmh. Et à l'époque, quand on misait sur ces entreprises industrielles, extractives, c'était que voilà, ils vont payer de l'électricité, ils auront de l'électricité en termes de privilèges pour qu'ils produisent et qu'ils créent des emplois, qu'ils créent des revenus pour le développement local. C'était ça la raison. D'accord. Mais ici, on a vu que pendant toutes ces années, ils ont été privilégiés, mais ils n'ont pas apporté le développement qu'on souhaite. Les gens n'ont pas de travail et c'est comme ça qu'il faut équilibrer. C'est comme ça qu'il faut encourager justement le développement de cette microéconomie, de ces activités. N'est-ce pas à partir de la base où la population est capable justement de développer, parce que le pays va se développer à partir de ces activités économiques qui sont faites à partir de la base, et c'est ça qui est souhaitable. Et donc, parlant, n'est-ce pas, de factures et de compteurs, effectivement, ça c'est une grande faiblesse de la SNEL aujourd'hui, c'est que, n'est-ce pas, déjà, il y a eu quelques financements avec la Banque mondiale, par exemple, il y a un projet qu'ils ont appelé EACE. C'est un projet qui, en réalité, doit se terminer d'ici le 30 juin. Il s'appelle le projet d'accès et d'amélioration des services électriques. C'est un projet qui visait justement la connexion de plusieurs ménages à Kinshasa et dans certaines grandes villes. Au-delà de ça, ça visait aussi l'amélioration du réseau et l'accès, faciliter l'accès des ménages. Ça veut dire leur donner des compteurs, etc. Mais on a vu que c'est vrai que dans certains coins à Kinshasa ou dans certaines grandes villes comme à Lubumbashi, on a des compteurs, mais c'est pas suffisant. Mmh. Et au-delà de ça, on constate aussi une faiblesse de ces compteurs prépayés, et c'est ça qui crée même la frustration des populations. C'est qu'ils payent en avance l'électricité, mais ils n'en ont pas. Aujourd'hui, en passe a été connecté. Beaucoup de ménages sont connectés dans le réseau avec des compteurs, mais ils n'ont plus d'électricité parce que voilà, la quantité reste le problème. Donc c'est comme ça que moi, dans tout ce que je veux dire, je voudrais que nos auditeurs puissent capter une chose, c'est que aussi longtemps que l'État congolais ne va pas mettre de moyens, ne va pas prendre ses responsabilités en tant que l'État pour orienter le secteur, pour financer le secteur, pour faciliter des investissements dans le secteur, avec pour objectif d'accroître la quantité d'énergie qui est produite, rassurez-vous que rien ne pourra être fait. Et nous, en tant que population, nous, en tant que citoyens, il faudrait que l'on prenne aussi nos responsabilités, sans lesquelles. C'est que nous devons davantage renforcer la pression sur nos gouvernants pour qu'ils comprennent que, n'est-ce pas, l'électricité est un facteur important du développement. Aussi longtemps qu'on n'a pas d'électricité, on ne peut pas avancer. Il faut que la pression soit effective. C'est comme ça que vous avez parlé d'un outil qu'on a rendu public il y a quelques jours. On appelle ça des questions citoyennes. Là-dedans, on pose des questions aux dirigeants, on pose au chef de l'État, on dit, mais c'est à vous qu'on a donné la responsabilité de diriger ce pays. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on va continuer dans les mêmes pratiques, dans la même situation où la population n'a pas accès à l'électricité? Ce n'est pas concevable. Il faut prendre toutes les mesures qu'il faut. À la première ministre qui est arrivé, on lui pose la question, on sait que il y a la continuité de l'État, mais pourquoi les budgets de l'État, les lois de finances n'intègrent pas des financements conséquents pour le secteur de l'électricité? Même dans les cas où ces lois de finances intègrent des financements, dans la reddition de comptes, on va se rendre compte que voilà, il n'y a pas de décaissement. Pourquoi il n'y a pas une politique d'incitation pour que les investisseurs viennent dans le secteur? Le ministre de l'énergie, la politique elle est où? La planification elle est où?
Monsieur le coordonnateur,
ce sont là des questions fondamentales qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions. Je vous écoute, monsieur.
Oui, monsieur Emmanuel, donc nous allons retourner au standard. Il y a d'autres auditeurs qui attendent, donc on va leur donner la parole et puis nous allons revenir à vous. Coupure intempestive et délestage du courant électrique dans les zones urbaines de la RDC, quelles en sont les causes et les solutions? Nous en parlons dans cette deuxième tranche d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, télécharger et conserver vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Monsieur Eminent, vous intervenez depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Emina Mwanda, vous êtes en ligne? Malheureusement, il n'est plus en ligne. Nous passons au deuxième intervenant. Il s'appelle François. François, il est à Chikapa. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur le chevalier de la plaine. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à votre invité sur place dans les studios.
On vous donne la parole.
Oui, merci. Merci beaucoup pour la parole. Mais laissez-moi d'abord, avant d'entrer en profondeur du sujet, dire que la province du Kasaï, c'est l'une des provinces dans l'espace Grand Kasaï qui est beaucoup négligé par le gouvernement central dans les cas de en électricité. Laissez-moi vous dire que nous avons eu la chance de sillonner dans notre province de Kasaï, à Ilebo Mweka, aujourd'hui à Chikapaville. Vous savez que le courant le plus cher en électricité, c'est à Chikapaville. Vous allez vous informer avec l'électricité EDC qui distribue le courant ici à Chikapaville. C'est le courant le plus cher à travers les pays. Et d'ailleurs, ces derniers temps, comme vous avez parlé de...
François, oui, c'est vrai, c'est le courant le plus cher et le plus stable. J'ai été à Chikapa pendant 2 semaines. Je n'ai pas constaté la coupure du courant électrique à Chikapa.
Non, récemment, il y a des coupures. Nous avons cinq communes. Nous avons la commune de Djibumba 1, Djibumba 2, Mbumba, Mabonde et Kanzala. Mais laissez-moi vous dire que même si vous appelez les gens qui sont à Chikapa, il n'y a que la commune de Kanzala qui est beaucoup privilégiée par rapport à d'autres communes. Alors, le gouvernement devrait... élargir son assiette avec la Société nationale d'électricité à Chikapa ici. Il devrait élargir son assiette avec, en créant ou en installant la SNEL, mais c'est ce qui n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, dans la province du Kasaï, la ville de Chikapa est entourée de grandes rivières, la rivière de Chikapa ainsi que la rivière de Kasaï. Mais qu'est-ce qui peut empêcher au gouvernement de créer même une chute d'eau, un petit barrage qui peut ravitailler les gens en courant ici, en ville, et surtout que c'est les chefs-liers. Nous sommes à Ilebo, parce que nous parlons du Kasaï. Ilebo, il n'y a pas la SNEL. Il n'y a que la Société nationale des chemins de fer, la SNCC, qui aide un peu avec du courant, et qui ravitaille ses usagers avec le courant, qui remplace, mais avec les airs entrecoupés là. Donc, s'il y a le travail au niveau du port, c'est comme ça qu'on peut vous envoyer du courant. Mais s'il n'y a pas de travail, imaginez-vous, vous avez vos congélateurs, quelque chose. Donc, vous ne serez pas à ravitailler en électricité. Nous, nous sommes à Ilebo. Mais à Mweka, nous avons eu affaire plus de 2 ans. Mweka, chez le professeur Evariste Bouchavou, nous avons la SNEL qui est là, mais qui est inactive. Elle ne travaille pas. Elle est tombée en faillite. Elle est sous l'œil impuissant du gouvernement. Donc, nous voulons que la province de Kasaï, qui est une province minière, puisse bénéficier des investisseurs qui peuvent créer même des mini barrages dans chaque territoire, parce qu'il y a de l'eau là-bas. À Mweka, nous avons la rivière Kasaï qui passe aussi là-bas. À Ilebo, nous avons la rivière Kasaï qui passe là-bas. À Louébo également. Mais vous allez fusionner dans ces territoires. Vraiment, c'est dès qu'il est déjà 18h, il faut déjà entrer à la maison de voie sûreté parce que l'obscurité commence à ravager la cité. Donc, nous lançons un SOS au gouvernement central et surtout au futur gouvernement qui s'annonce avec Mme Ritt de pouvoir penser même à micro-barrage dans chaque territoire. Ça ne vaut pas la peine, messieurs les journalistes. Ça ne vaut pas la peine. Voilà, c'est mon intervention par rapport à ce que la population kasaïenne a besoin d'avoir l'électricité presque dans la quasi-totalité de tous les territoires.
Merci beaucoup, monsieur François Okunji. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Chikapa que vous intervenez. Cette fois-ci, allons au site Kivu pour donner la parole à maître Joseph. Bonjour. Malheureusement, la liaison n'est pas bonne avec la ville de Bukavu. On tâchera de rappeler soit maître Joseph ou éminent. Monsieur Emmanuel, comment répondez-vous à notre invité François Okunji de la ville de Chikapa?
Non, mais j'apprécie le fait que il est revenu sur cette problématique de Chikapa.
Et un cri d'alarme qu'on puisse penser au Kasaï qui est dans le noir.
Oui. Non, le Kasaï est dans le noir, c'est clair. Et donc, il faut davantage multiplier des efforts pour que la province recouvre, au fait, sa lumière qui est en perdu, au fait. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une part de responsabilité, surtout, et cette fois-là, et c'est parmi des questions qu'on a adressées à l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. question est celle de savoir pourquoi il y a cette grande différence très remarquable entre, n'est-ce pas, les tarifs des entreprises. Vous verrez que EDC, ils ont dit, EDC, on paye 50 cents, on paye 50 cents par kilowattheure pour accéder à cette électricité-là. Et cette communauté-là de Chicapa, je ne sais pas si elle est riche à quel degré. Et donc, c'est une façon de ne pas favoriser l'accès à l'électricité de tout le monde là-bas. Et ça, c'est un problème. L'autorité de régulation doit effectivement revenir sur ces aspects-là parce qu'en réalité, la définition du tarif est faite par l'entreprise. Bien évidemment, la loi recommande que le tarif soit élaboré sur base des vrais coûts que l'entreprise a mis en œuvre dans la production d'électricité, le coût de transport, etc. Mais ça doit être évalué par l'autorité de régulation avec justement la participation d'autres acteurs, bien cela est, mais on se pose la question pourquoi Chicapa est dans ces conditions-là. Et donc ça c'est un problème, mais je pense que la recommandation que nos amis de Chicapa ont fait tout à l'heure, c'est une recommandation qui vaut pour tous nos amis qui sont dans les grands équateurs, tous nos amis qui sont dans les grands Bandundu, tous nos amis qui sont dans la province orientale et voilà partout en RDC.
Monsieur Manuel,
l'avantage qu'on songe à la production d'électricité. Comme vous le savez d'ailleurs, l'Atlas sur les énergies renouvelables a démontré qu'on peut ériger des micro-barrages partout en RDC et cela peut aider davantage à ce que les gens aient accès à l'électricité.
Donc, Monsieur Manuel.
Et je voulais peut-être revenir rapidement sur une question, sur un aspect que quelqu'un avait mentionné. Par rapport, je pense vous aussi, vous aviez parlé, n'est-ce pas, de cette disparité qui existe entre, n'est-ce pas, par rapport à la distribution d'électricité entre les entreprises et les ménages. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, dans les grandes villes, et je prends exclusivement l'exemple de Kinshasa, on voit la prolifération en fait des constructions, des grandes constructions qui par moments sont faites sans respecter les normes, sans impliquer les services. Comme des services de l'État ou carrément des entreprises comme la SNEL et autres pour planifier. Et aujourd'hui, au-delà de ces grandes constructions, il y a aussi des grandes entreprises qui se créent. Il y a par exemple le cas de la zone économique spéciale qui a besoin de plus ou moins 50 mégawatts à Maluku pour l'électricité. Mais les gouvernements qui encouragent ces choses, je pense qu'ils doivent aussi réfléchir d'où est-ce qu'ils vont trouver l'énergie que cette zone économique spéciale va utiliser. Oui. Ici, je prends l'exemple de Saphir, par exemple, l'entreprise Saphir qui a été récemment inaugurée, qui produit des carreaux. C'est une très bonne chose, certainement que des gens ont des emplois et autres, on est d'accord. Mais voilà ce qui s'est passé. On donne à Saphir, le ministère de l'économie et de l'énergie, signe un arrêté interministériel pour donner des avantages à Saphir, à ce que Saphir paye autour de 3 cents le kilowattheure. Alors que dans la ville de Kinshasa, les ménages, moi dans mon ménage, je paye 17 cents plus ou moins le kilowattheure. C'est-à-dire, l'avantage qu'on a donné à Saphir, c'est qu'il paye moins que même moi, la population, qui paye 17 cents.
C'est-à-dire que pas normal.
Ce sont des avantages qui sont donnés, mais qui ne sont pas normaux. Et tout ça, c'est la SNEL qui doit donner cette électricité, et c'est ça qui favorise davantage tous ces problèmes que nous avons de délaissage. Donc c'est juste pour dire que le gouvernement doit revenir à sa responsabilité, n'est-ce pas, de penser et de planifier l'électrification de la RDC. Partout où il n'y a pas d'électricité, il faut voir quelles sont les solutions qu'on trouve dans ce coin-là et où il y a de l'électricité, comme dans des grandes villes, dans des zones urbaines, voir comment est-ce qu'on consolide et on équitablement cette électricité-là. C'était une précision que je voulais apporter.
Oui, Monsieur Emmanuel, depuis 5 ou 6 ans, votre coalition entreprend des initiatives, des plaidoyers pour améliorer l'accès au courant électrique en RDC. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan sur les projets, les actions que vous menez dans le cadre de la promotion d'accès à l'énergie électrique? Et récemment, votre coalition est allée signer un partenariat avec la SNEL. En quelques mots, quel a été l'objet, les contenus, au fait, l'esprit de ces partenariats-là?
Merci beaucoup. La CORAP travaille depuis des années, comme vous l'avez dit. Et notre bilan, je dirais que je dirais deux choses. C'est que premièrement, nous sommes contents des évolutions qui sont constatées aujourd'hui dans le secteur de l'électricité. où je prends un exemple lors de la campagne des élections l'année passée en décembre, où le chef de l'État répondait à des questions que Corapa posait. Et donc, aujourd'hui, dans la loi sur l'électricité, dans la politique nationale de l'énergie qui est en cours d'élaboration, on peut voir les apports de la Corap et des communautés locales par rapport au problème d'électrification. Mais le plus grand souci, le deuxième niveau que je voulais mentionner, c'est que au-delà de la planification, au-delà des lois et des politiques, il faut que des actions concrètes soient mises en place. Parce que aujourd'hui, par exemple, notre plaidoyer était à la base aussi de la création de l'ARE et de l'ANSER et de son opérationnalisation. On est d'accord. Oui. Mais il faut que des actions sur terrain soient visibles. Il faut que l'ANSER ait un impact sérieux sur au niveau local pour que l'on voie les choses avancer. Donc, pour dire que nous sommes contents de l'évolution, nous sommes contents que l'État congolais aujourd'hui intègre la dimension des énergies renouvelables. Nous sommes contents que, voilà, la question de l'accès des populations devient de plus en plus une question qui préoccupe le chef de l'État et son gouvernement. Mais nous ne sommes pas contents que les choses traînent. Il n'y a pas de principes clairs pour qu'il y ait une transformation et que des résultats soient très rapidement observés. Et à la deuxième question, effectivement, nous avons signé un partenariat, un protocole de collaboration avec la SNEL, comme aussi nous avons un partenariat avec l'ANSER, nous avons un partenariat avec la plupart de l'État. L'objectif de cette collaboration, c'est que, comme tout le monde peut le constater, pendant plusieurs années, la SNEL est restée, n'a pas eu une bonne communication avec sa population. Et le but, ou carrément sa clientèle, et le premier but de cette collaboration avec la SNEL, c'est d'inciter qu'il y ait plus de redevabilité de la SNEL vis-à-vis des populations, vis-à-vis de sa clientèle. Et la CORAP, qui est une structure qui travaille avec des populations, avec des communautés locales, recueille généralement des avis, des questions, des recommandations auprès des populations. Et donc, ce partenariat nous permet de ramener ces questions sur la table de la direction générale de la SNEL, d'en discuter et de proposer des solutions idoines. Et d'autre part, de prendre des informations essentielles qu'il y a à ce niveau-là, que les gens n'ont pas accès généralement, pour qu'on le rapporte au niveau local. Donc, c'est un partenariat qui est basé sur la communication, qui est basé sur la création d'un cadre de concertation permanent qui devra permettre de discuter sur des solutions à apporter aux populations. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons, nous collaborons avec l'ANSER, nous collaborons avec d'autres structures du ministère parce qu'on estime que le rôle que joue la CORAP, celui de suivi des réformes, on doit être où les informations et les vrais, c'est sur qu'ils, pour qu'on soit à même de les ramener auprès des populations et vice-versa, ramener toutes les préoccupations pour que la voix des populations puisse être entendue effectivement dans tout ce qui est en train d'être développé comme action publique et réforme au niveau de l'État. Donc c'est ça, n'est-ce pas, le sens de la collaboration avec la SNEL.
Monsieur Emmanuel Moussouyou, nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Merci d'avoir été avec nous dans Capi Service. Excellente journée. L'État imparti à l'émission est épuisé. À la prochaine occasion.
Non, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et à la prochaine occasion.
C'est par ici que nous clôturons les magazines au Capi Service, présenté et coordonné par Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à Mvezolo était à la réalisation de cette émission et Jean-Noël Mokono s'est occupé de la prise des sons. Excellente condition d'écoute de nos programmes.